19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver chers amis auditeurs et auditrices. Oui, quel plaisir de vous retrouver dans les informés des quartiers. C'est pas les informés tout court, c'est les informés des quartiers le vendredi. Ah oui, c'est parti, allez, vous le savez, tout de suite au menu. D'abord je vais ouvrir l'antenne, je vais commencer avec vous au 01 53 48 3000. Nous reviendrons sur, vous savez, la loisiveté des jeunes aujourd'hui. Alors il y a plusieurs thèmes qui vont nous concerner parce que beaucoup considèrent qu'ils minimisent justement les propos d'Emmanuel Macron, sont minimisés, qu'on ne parle pas suffisamment évidemment de ce qui s'est déroulé. Donc on reviendra sur ces propos-là. On reviendra aussi également du déplacement d'Emmanuel Macron à Clichy. Bain de foule entre Rachida Dati, est un symbole dans les quartiers populaires. On en parlera, je vais en parler aussi avec nos débatteurs influenceurs. Rachida Dati, tout un symbole, oui, premier défenseur. Et ben c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Il dit que en gros, ça peut créer l'effet miroir. Et ben on en parlera au 01 53 48 3000. Il dit aussi notamment à Clichy que Rachida Dati saura manier à son profit le concept de la culture pour tous. Ça veut dire quoi? Ben on en parlera justement dans cette émission. Après on parlera de l'affaire Théo avec les condamnations des trois policiers, nous en parlerons. Tant qu'ils sont condamnés, tout me convient. C'est les déclarations de la victime Théo. On reviendra sur cette affaire. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. Je vous attends. Bien sûr, comme chaque soir, 01 53 48 3000, vous venez et vous commentez un des sujets que je vais vous proposer. C'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout, en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Les informés des quartiers, le face-à-face avec Maître David Lebesquit. Bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Tout va bien. En face de vous, vous avez Ménad Ouchéni, ancien élu, aujourd'hui consultant numérique. Bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Un élu à vos côtés, c'est les Saint-Germain, les Arpajons, c'est Rudy Casi, bonjour.
Bonsoir cher Adil.
Comment ça va? Toujours costume cravate.
Hein. Yes.
Bah, toujours. Écoutez, il faut...
Elle est chic.
Chercher toujours. J'ai toujours.
Non, c'est le vêtement traditionnel du Parisien classique.
Non, regarde.
Bon, peut-être pas dans les années 2020.
Parisien classique aussi.
Bon, dans
ça
les
dépend
années,
de quel arrondissement.
Dans les
fait.
Années 2010.
Vous avez raison.
Dans les années 2000,
90. Le 8e, le 16e.
Moi je travaille dans le 8e, mais j'habite dans le 19e.
Ni dans le 8e ni dans le 16e arrondissement, quoique ce sont de beaux arrondissements. J'ai habité dans le 18e, c'est un bel arrondissement aussi. Ouais.
Exactement.
Et j'ai grandi en banlieue, né à Paris, je vis en banlieue et c'est aussi bien.
Monsieur Nouzellon, c'est aussi bien.
Parce qu'il a un travail sérieux peut-être.
C'est ça.
Ça doit être ça.
C'est ça. On va parler, vous savez quoi, des déclarations. Vous avez tous suivi la conférence de presse, sauf que dans les informés des quartiers, nous allons nous intéresser plus particulièrement à tous les sujets qui ont touché les quartiers populaires. Alors, les jeunes sans emploi, sans formation, on va parler aussi des décrocheurs. Quand il fait cette déclaration, elle a beaucoup, beaucoup, énormément provoqué de polémiques, de débats. Pour Emmanuel Macron, lui, clairement, il reconnaît, il dit... C'est l'oisiveté motivé les émeutiers l'été dernier. Ménad Ouchéni, a-t-il eu raison de dire ça? Est-ce qu'on peut considérer que les émeutiers, c'était simplement des jeunes et l'oisiveté?
Non. Enfin, comme d'habitude, c'est un exercice très compliqué de mettre une étiquette, une raison sur des motivations d'une population aussi large. Et pour moi, il y a autant de raisons qu'il y a de jeunes qui se sont, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui se sont embarqués dans ces événements-là. Sans doute, peut-être un peu d'oisiveté, mais ça n'est pas ni l'alpha ni l'oméga des motivations de ces jeunes-là, et elles sont extrêmement plurielles, ces motivations. Et pour moi, c'est effectivement une combinaison, un mélange de tout ça qui a provoqué des situations. Et sachant que les émeutes n'étaient pas les mêmes tout de suite après la mort d'une jeune Naël. Et sur les jours qui ont suivi, elles avaient un peu changé de forme aussi par endroit. Donc ne mettons pas une étiquette et ne jouons pas le jeu du monolithisme. Et voyons ça plutôt comme des cas aussi spécifiques les uns que les autres.
Oui, mais ça veut dire quoi, des cas spécifiques aussi?
Si vous avez aussi eu beaucoup d'effets de meute,
les raisons
Adil,
sont claires.
Vous avez aussi eu beaucoup d'effets de meute, c'est-à-dire des jeunes qui à la base n'avaient pas prévu forcément de s'investir dans ces événements-là, qui voyant les copains y aller, ils sont allés. Il y avait des effets de meute. Vous aviez également une compétition. Vous aviez également des compétitions malsaines par ville ou par quartier. quartier au regard de qui allait être le plus représenté. Ça aussi, c'est malvenu.
Vous
aviez aussi, parfois aussi, il faut le dire, des parents qui étaient assez démissionnaires. Vous aviez aussi des jeunes qui étaient regardants sur, pour habiter à Rosny-sous-Bois, ceux qui ont envahi Rosny 2. Je peux vous assurer qu'ils n'en avaient pas grand-chose à faire du jeune Naël. Ils y sont allés pour d'autres raisons, peut-être plus consuméristes ou autres. Mais en tout cas, oui, mais voilà. Mais c'est, la mort de Naël a été un prétexte aussi à beaucoup d'entre eux pour aller faire ce qu'ils avaient envie de faire depuis un certain temps.
Ça tombe bien.
Mais tant pis. Alors, mais c'est mon opinion.
Même, vous avez raison, justement. Rudy Kazi qui n'est pas d'accord et David Lebesquite qui n'est pas d'accord.
Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que le président de la République pose comme diagnostic l'oisiveté, comme contexte des émeutes, mais il parle aussi de l'exacerbation donnée par les réseaux sociaux sur cette surenchère, on va dire, de violence à l'émeute. Moi, je suis pas d'accord avec le président de la République, même si l'oisiveté fait aussi partie de ces facteurs. Pour moi, la cause, elle est multifactorielle, mais je prendrais pas uniquement l'oisiveté pour établir un lien entre justement oisiveté et délinquance chez les jeunes. Bien que c'est vrai que dans les quartiers, il y a un cumul évident de problèmes sociaux. On rappelle 43% le taux de pauvreté de 43% dans les QPV contre 14% sur le reste du territoire. 4 habitants sur 10 n'ont pas de diplôme et le chômage est deux fois plus élevé dans les QPV. Je dis les QPV, mais ça peut même être plus fort dans ce qu'on appelle les quartiers populaires qui sont pas forcément dans le giron des quartiers prioritaires de la ville. Donc effectivement, il y a cette multicausalité. Pour autant,
Ménadouchina, à mon avis, il a pas tort aussi quand il dit effectivement qu'il y a des gens qui sont là dont l'intention pour c'est autant, de profiter de ce
oui,
moment
mais pas que,
pour piller les magasins.
Il y avait autant d'individus. Je termine. Moi, je pense qu'aussi il y a un problème d'autorité. Moi, pour moi, par exemple, il me semble qu'il faut incarner de la fermeté, de la francité au sens de patriotisme. Non, alors de l'État au sens au sens de la grande fonction publique qui gère effectivement la chose publique, mais aussi au sens de l'État qui est, enfin, les Français de façon globale. Il y a une chaîne, on va dire, de responsabilité devant laquelle on s'est tous défaussés à l'échelle des années, des dizaines d'années, des décennies. Je veux dire, quand on parle de l'école, on parle des QPV, mais vous avez des profs qui sont très jeunes dans les QPV, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les quartiers, on va dire, un peu plus favorisés. Mais la question de la fermeté, oui, ou de la responsabilité, oui, ou de l'autorité, j'en parlais à l'instant, notamment à l'endroit des parents, des familles monoparentales, la cellule familiale qui est absolument pas confortée, le rôle démissionnaire de certains pères. Je veux dire, à un moment donné, l'enfant, lorsqu'il est habité par une crainte des parents, il y a des choses dont il se garde de faire. Moi, j'ai grandi dans un quartier.
Une fois que vous avez dit ça justifie en gros qu'il se retrouve dehors avec un copain.
Ça ne justifie rien.
Et d'aller
parce que vous posiez la question, cher Adil.
Non, Adil, c'est ce que vous laissez comprendre, mon cher.
Non, vous posiez la question de savoir. Oui. Est-ce que le président de la République a raison? Sur l'oisiveté, je suis absolument pas d'accord. Maintenant, sur la responsabilité et sur la question de l'autorité, c'est là d'où vient le problème. Et l'autorité aussi de la police. Je veux dire, avec la baisse des budgets qu'on a constaté.
Ils n'ont pas arrêté de recruter dans la police.
Oui, mais c'est
pour ça que.
Non.
Alors, si je peux te dire.
Mais tu peux me dire. Moi, je dis. Après, tu pourras dire ce que tu voudras. Mais pour le moment, sur 20 ans, les policiers accusent d'une baisse de budget qui font qu'il y a moins d'enquêteurs, qu'il y a moins de moyens dans les commissariats. Non, je suis désolé.
Des commissariats qui sont laissés
à l'abandon avec parfois des rats qui courent dans les commissariats, Adil. Non, pas du tout.
Alors, maître David,
et la police de proximité, effectivement, que l'on a plus.
Là, oui.
Mais ça fait partie de la baisse. Mais on mène une politique d'austérité dans ce pays, je vous le rappelle, oui ou non? Bah voilà, mais ça se répercute aussi sur le ministère de l'Intérieur. Et on rappelle aussi, quand même, le nombre d'heures supplémentaires non payées par millions d'euros aux policiers. La police est un métier plus ou moins précaire, ça se répercute dans la gestion des quartiers, mais aussi dans la formation de certains policiers dans les quartiers difficiles.
Maître David Lebesquite.
La cause est multifactorielle, je vous le disais.
Je suis pas du tout d'accord avec.
Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord et on va débattre.
Vient d'être dit, rapidement sur le recrutement des policiers.
C'est facile de pas être d'accord.
Parce que j'ai pas le droit d'être en désaccord avec toi, c'est nouveau en fait.
L'austérité qui touche la police.
Bien
sûr, mais l'austérité qui touche la
police,
c'est une réalité ou pas?
C'est un sujet que je connais très bien.
Le manque de moyens dans la police, c'est un sujet ou pas?
Non.
Les heures supplémentaires non payées, c'est un sujet ou pas?
Laisse-moi répondre.
Vous êtes pas d'accord sur quoi?
L'autorité.
Vous le laissez ou pas?
Non, mais si tu me donnes pas la parole, comment je peux m'exprimer?
Il y a pas de problème, mais c'est quand même facile de dire je suis pas d'accord.
Oui, je suis pas d'accord, mais laisse-moi finir en fait.
Il a dit il est pas d'accord.
Je suis pas d'accord, tu me coupes.
Sur quoi? Je vous entends.
voilà. Alors, sur la police, je suis pas du tout d'accord. Alors déjà, il n'y a jamais eu autant de recrutement de policiers.
Depuis quand
depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a fait 10 fois mieux que Nicolas Sarkozy. Hein, à chaque fois, les annonces
c'est vrai.
Qui sont faites...
Non, mais pas sur tout le monde.
Non, non, à chaque fois, laisse-moi finir.
Mais c'est faux, pas sur tout le monde.
Mais arrête de couper.
Mais laissez-le, et après, vous lui répondrez.
Arrête de couper. Toutes les annonces qui ont été faites depuis l'élection d'Emmanuel Macron montrent, en fin de compte, que pour moi, il y a un recrutement...
Depuis le discours à Marseille, je suis d'accord.
Excessif de policiers qui fait qu'en fin de compte... On peut parler bientôt d'un état policier. C'est un premier point. Concernant les conditions de travail, où je te donne mon acte, où je suis d'accord avec toi, c'est sur les commissariats. Moi, je les fréquente quotidiennement, les commissariats, quand je fais des gardes à vue, etc. Donc, évidemment, effectivement, il y a des conditions de délabrement honteuses dans la plupart des commissariats en Ile-de-France. Troisième point, concernant les émeutes, moi je suis très bien placé parce que moi j'ai défendu des émeutiers hein, qui ont été en garde à vue.
Donc, mais on est tous bien placés.
Non, moi je suis bien placé parce que moi j'ai vécu le terrain.
Bah, moi je vis en banlieue, j'ai grandi en banlieue. Oui, j'ai suivi de l'intérieur les quartiers.
C'est son métier, donc il
non, mais c'est mon métier.
Ça veut rien dire, ça veut rien dire.
Laisse-moi finir, en fin de compte, tu me coupes avant que j'argumente.
Mais oui, mais en fait, je suis obligé de répondre. On est dans un débat, je suis obligé de répondre. Moi je suis bien placé.
Attends, j'ai.
De la même manière, Rudy, vous n'aimez pas quand on vous interrompt, laissez-le.
J'ai même pas fini ma phrase.
Sinon, il n'y a pas débat. Sinon, on ne va pas s'entendre. Hein.
Mais moi, quand je donne mon point de vue, je ne pointe du doigt personne. Lui, il donne son point de vue et il me dit je ne suis pas d'accord avec toi.
Non, mais attends, écoutez, la liberté d'expression, c'est pas le débat. On a le droit d'être en désaccord avec toi, liberté d'expression.
Parfaitement, d'accord.
Et en plus, tu coupes avant que j'argumente. Ce que j'ai dit, en fait, effectivement, je connais bien les émeutiers, puisque je suis avocat, et j'ai assisté pas mal des émeutiers en garde à vue. Alors évidemment, Emmanuel Macron donne un profil complètement caricatural. D'ailleurs, comme il avait fait au début en disant oui, c'est des immigrés, etc., c'est des étrangers, les émeutiers, alors qu'il s'est avéré, en fait, qu'il y avait beaucoup de Kevin parmi, en fait, le profil des émeutiers.
Et des Kevin qui sont noirs aussi.
Effectivement,
hein.
Le fait de parler d'oisiveté, bon, ça reste quand même, en fin de compte, un argument que Emmanuel Macron soulève à tout va, pas seulement pour les émeutiers, puisqu'il veut, remettre, entre guillemets, la France au travail, puisque sa politique, s'il a une vision, en tout cas, c'est d'aboutir au plein emploi. Moi, ce que j'ai défendu, il y en avait certains qui avaient des métiers, qui travaillaient, il y en avait d'autres qui avaient pas de travail. Il y avait beaucoup, et ça, c'est quand même, ça, en fait, faut bien le souligner, il y avait beaucoup, en fait, d'émeutiers, entre guillemets, bon, on va employer ce terme, qui n'avait pas de casier, qui avait un casier judiciaire vierge. Pour moi, en fait, les émeutiers, entre guillemets, c'est les gilets jaunes des quartiers populaires. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était ça. Parce qu'en fin de compte, il faut aussi analyser le pourquoi. C'est pas quelqu'un comme ça, du jour au lendemain, créer des émeutes. Il y a pas de violence physique en tant que telle hein, contre les personnes. Je te rappelle qu'en fin de compte, c'était des bâtiments publics, souvent. Alors, évidemment, il y a eu quelques magasins pillés.
Donc, ils ont eu raison d'attaquer les bâtiments publics.
Ça, je suis d'accord. Il y a eu des opportunistes, en fait, qui ont pillé certains magasins. Mais en fin de compte, le plus gros des dégâts, c'était les écoles. C'était
leurs écoles.
Voilà, les magasins.
Voilà, leurs magasins.
Voilà, mais tout ce qui était service public.
Ouais, leurs services publics.
C'est important. Non, mais à la base, c'était ça.
C'est important,
la cible qu'ont eu les émeutiers. Principalement, même je suis d'accord, il y a eu des magasins pillés parce qu'il y a eu des opportunistes hein, qui ont oui. profité pour se servir.
Disais,
mais
là,
il y a autant voler, de qui nous ont sur le débat de la consommation.
Mais la plupart des émeutiers, ce qu'ils ont dégradé, c'était les bâtiments publics et principalement.
Ce qui n'est pas une bonne chose.
Et principalement les écoles. Alors pourquoi? Parce qu'il suffit pas de faire le constat de dire il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, faut que les parents éduquent mieux les ergos, faut plus de policiers. Non. Il y a toujours une cause en fin de compte. Faut quand même analyser les causes, comme tu dis, que je crois que c'est toi qui le disais ou.
Importe,
voilà, ouais. Depuis des Ménade. Décennies, ce problème existe.
Ménade.
Voilà, il y a eu la discrimination. Il y a la discrimination,
hein.
Le problème d'accès à l'emploi.
Les causes, on les a exposées.
Voilà,
le taux de pauvreté, des habitants qui ne sont pas diplômés, un chômage qui est plus important, de l'autorité qui manque chez les parents, chez les mères seules, etc.
Il vient de décrire le profil des justement.
Mais moi, je suis désolé, j'ai évoqué les causes.
C'est qu'il y a autant de situations qu'il y a des métiers, effectivement, et David, en les défendant, rentre dans les dossiers, j'ai envie de dire, et puis les casiers vierges, etc. C'est des choses aussi qu'il faut souligner. Ce que je dis pour essayer de synthétiser ou peut-être même de conclure, c'est de dire que le décès de Naël a été un catalyseur de quelque chose qui bouillonnait, qui était latent, comme à l'époque les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a démarré entre autres parce qu'on avait augmenté le prix de l'essence de quelques centimes. Ça a été pareil, le catalyseur, ça a été l'étincelle. Donc déjà le lien entre le décès de ce jeune homme et les émeutes, finalement, ça aurait pu être autre chose et qui aurait déclenché ça. Ce que je souhaite dire justement et sur ces éléments-là, C'est mon avis, hein, pardon. Ce que je veux dire sur ces éléments-là, c'est que si on... Et c'est un peu l'écueil dans lequel est tombé le président, parce que c'est aussi un exercice qui, à mon avis, n'est pas facile de mettre un mot, c'est de dire... C'est l'oisiveté, point. Non, c'est pas l'oisiveté, point. Il y a autant de situations qu'il y a d'émeutiers. Et en l'occurrence, après, pour résoudre ça, il y aura autant de solutions qu'il y a de personnes.
On marque une pause, il est 19h15. On marque une pause. Le standard est ouvert. 01 53 48 3000, je lance. Donc, évidemment, le numéro, vous nous appelez partout en France et ailleurs, d'ailleurs aussi, et partout dans le monde, pardon. Je vous attends 01 53 48 3000. Et puis, on parlera aussi du déplacement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, à Clichy-sous-Bois. Tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés des quartiers, chers amis, avec Maître David Libeskid, avec Mena Douchenir et enfin avec Rudy Kazi, les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, on vous donne la parole justement et direction Toulouse. Il doit faire certainement meilleur qu'à Paris. Toulouse, Mohamed, bonsoir Mohamed.
Bonsoir, salutations distinguées.
Yeah, salutations distinguées. Avec l'accent, il fait meilleur qu'à Paris, j'imagine. Non, il a neigé chez vous un peu après, pas du tout, même.
Il a pas gêné, mais 2 degrés, ça pique quand même.
Ça pique, ouais, c'est vrai, vous n'avez pas l'habitude de ça. On vous écoute, mon cher Mohamed. Bienvenue alors. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire?
Merci de donner la parole, ça fait plaisir.
C'est normal.
Je risque de mettre les pieds dans le plat.
Allons-y.
Quand j'entends notre président de la République qui dit que les jeunes de quartier, c'est la oisiveté qui a créé tout ça, là.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il parle des Noirs et des Arabes, simplement. C'est bien connu. On est trop feignants pour travailler, trop feignants pour aller à l'école. Et du coup, on n'a rien à faire. Mais dès qu'il y a moyen de casser une voiture ou de faire ce genre de choses, ben on est prêt.
Ouais. Qui veut réagir? Il a raison, il a tort, Mena Douchenir?
Non, ce que je pense.
Ce que dit Mohamed?
Est-ce que c'est, comme il dit, je reprends les termes, les Noirs et les Arabes qui sont visés?
En gros, il pointe les Noirs et les Arabes.
Non, mais faut pas oublier aussi tous les quartiers, dans la France des territoires. Nous, on est franciliens, on a le spectre francilien parce qu'on. On est d'ici, mais faut pas oublier que dans les territoires, non mais voilà, alors les territoires de Toulouse, ça reste une métropole. Je parle vraiment dans les territoires un peu plus isolés, vous savez, qui sont ni les grandes villes, ni voilà.
Mais est-ce que ça vous fait raison, Mohamed? Raison, Mohamed.
Moi, je suis la reinerie.
Oui.
Je suis le Mirail. Je pense que vous connaissez. Je suis né là-bas.
Très bien.
Je suis né là-bas. Je suis responsable de cette là-bas.
Ce que je veux dire, Mohamed, c'est que
je vais juste finir. Les quartiers populaires aujourd'hui, ils ont été appauvris des Blancs, de manière générale. Moi, dans les années 80, quand un Arabe demandait à HLM, on lui donnait les trous d'à côté. Mais quand un Blanc, on demandait un HLM, on le donnait dans les environs, puis dans du tout, sur la Salvetat, tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Pour moi, c'est ça. Et dans les quartiers, quand on parle quartier populaire, de manière générale, dans l'intellect de la population, de manière générale, on entend noir et arabe. Quand on dit Baluza,
oui, mais il a raison.
Oui,
parce que la mixité, la diversité.
Cette non-mixité-là, elle n'a pas été voulue.
Alors, à mon sens.
Allez-y, Mélanie, et ensuite.
Et là, c'est l'ancien élu qui vous parle. À mon sens, peu importe le quartier, qu'on parle d'un quartier populaire ou d'un quartier UP, le manque de diversité et de mixité, ça crée des problèmes. Alors, chaque territoire a ses problèmes spécifiques. Donc, est-ce qu'ils étaient visés? Parce que c'était votre question. C'était votre question. Est-ce que c'est les jeunes, dits noirs et arabes, en tout cas, qui étaient visés par ce propos-là? Je pense pas. Je pense objectivement que c'était les quartiers qui étaient visés dans leur ensemble. Mais sur le fait qu'il n'y a pas assez de diversité ethnique, culturelle et sociale dans ces quartiers-là, oui, c'est vrai.
Maître David Libeskid, Maître David, il veut vous répondre.
Il faut arrêter d'être hypocrite quand tu parles, en fait, que ce n'étaient pas les Noirs et les Arabes qui n'étaient pas visés.
Vous êtes d'accord avec Mohamed?
C'est quoi les quartiers populaires? La majorité, ce sont des Noirs et des Arabes. Il n'y a pas de mixité. Mais ça, c'est dû en fait à la politique de la ville. C'est dû aussi à la politique des maires, refusent aussi à faire une mixité sociale.
Ce que dit Mohamed, vous le rejoignez.
Mais bien sûr, il a raison. Allez dans les quartiers populaires. Déplaçons-nous. Allez dans les quartiers populaires. Vous verrez que la majorité sont français d'ailleurs, d'origine maghrébine ou d'origine.
Ça n'a rien à voir. Faut bien faire le distinguo parce que ça, on nous a pas appris à le faire entre nationalité et ethnie. Donc moi, je parle bien de noirs et d'arabes. J'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas français.
Oui, ça, c'est tout à fait. Mais c'est compris. Ce sont des français. Ça, je suis d'accord. C'est ce que je dis.
On peut. Moi, ce que.
Vas-y, quasi.
Voilà. Moi, ce que je trouve déplorable, effectivement, c'est de faire le lien entre oisiveté et ethnicité. Mmh. Déjà parce que ça nous rapproche en fait d'une vision raciste ou racialiste.
Tout à fait.
Et c'est quand même déplorable. Et en plus de ça, au contraire, moi, je pense qu'il faut rapprocher en fait ces populations originaires des quartiers dont certains sont dont les parents sont souvent originaires de l'immigration. Moi, c'est mon cas. Je suis français. Je suis né en France. J'ai un peu vécu au Congo, mais mes parents sont originaires du Congo. Mais je me considère comme français, même si je garde une attache avec le Congo. Et il faut rapprocher en fait cette jeunesse de sa francité, de la même manière que celle qui critique son manque de francité, peut-être de la rapprocher un petit peu plus aussi d'une compréhension des réalités dont on parlait tout à l'heure, le taux de pauvreté, etc., etc. Voilà. Et à mon sens, tant qu'on n'est pas en capacité de regarder la multicausalité en fait qui touche les quartiers, mais dans un phénomène qui touche pas que les QPV, vous pouvez venir de Toulouse et de pas habiter dans une QPV, mais parce que vous habitez dans un quartier qui est on va dire un quartier populaire, vous vous identifiez à cette mouvance issue des quartiers. Vous avez ce phénomène qui pousse à la gangster attitude, à se comporter d'une manière, etc. Ça aussi en fait ça pollue l'imaginaire en fait des jeunes de quartier, et on n'interroge pas ces choses pour casser en fait cette culture qui est souvent importée des États-Unis, à laquelle on s'identifie quand on est noir ou maghrébin, etc. Et ça en fait c'est mortifère. C'est pour ça que je parlais d'autorité.
Alors Mohamed,
parce que l'éducation des parents est importante pour faire le ton.
Ça tombe bien, je voudrais juste vous poser une question parce qu'on va pas aller à direction Clichy-sous-Bois parce que il y a le déplacement du président de la République et de Rachida Dati. Allez-y.
En fait, quand il le dit de manière indirecte, pour moi, c'est pour frapper encore dans la frange droite de son côté du gouvernement qu'il a nouvellement élu. Parce que c'est la direction qu'il prend. Donc, ce sont des gens très intelligents qu'on a au pouvoir, hein, même si s'ils nous ont été vendus comme un paquet de laitiers.
Vous avez raison, moi je crois aussi, mais bon.
Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et ils tapent à la droite de la droite pour dire, regardez les gars,
alors, vous savez quoi,
Pas des Noirs et des Arabes.
Je voudrais quand même qu'on avance, mon cher Mohamed de Toulouse. Avant de vous libérer, Mohamed, je vous pose une question. Rachida Dati considère que c'est une chance, un symbole, Emmanuel Macron. Vous dites quoi?
Je dis que ça allait sans l'être. Parce que quand on prend une personne, on va dire, elle est d'origine arabo-musulmane, elle est maroco-algérienne, d'accord?
Ouais.
Et son tempérament un peu épicé, moi je vois mes tantes derrière, hein, c'est un côté algérien pour moi, et moi je suis algérien aussi. En fait, quand on prend un arabe, on dit, regardez, c'est possible, c'est l'arabe qui cache la forêt. Donc il y en a une qui a réussi, on va dire, parfait, mais les dizaines de milliers d'autres derrière, on en fait quoi? C'est pas parce qu'on en met un comme étendard que derrière on a réussi.
Ouais.
Elle a réussi, bon, de quelle manière, bon, ça on pourra discuter. Ben, pour moi, c'est juste, voilà, pour schématiser.
Oh, ouais. Pas de suspicion bizarre.
Pas de suspicion, on n'est pas là pour effectivement.
C'est pour ça que je m'arrête.
Ouais. Merci Mohamed de Toulouse. Portez-vous bien, c'est vrai. Restons sur le cadre de, évidemment, de ce qui nous concerne. Ouais. Amadou de Grenoble, bonsoir Amadou de Grenoble.
Bonsoir à vos invités, bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Effectivement, ça a été. C'est l'historique, quoi, parce que la communauté nationale indivisible, c'est la diversité, c'est pas la conformité.
Oui,
le problème, le président de la République, il a utilisé ça. La communauté nationale est devenue une communauté aujourd'hui communautaire.
Oui.
Vous avez compris?
Oui.
Donc la communauté nationale, il accepte la diversité. Dans sa diversité, c'est pas le conformisme.
Oui.
Si celui qui ne consomme pas à la culture française,
mais vous dites quoi, Amadou de Grenoble? Amadou de Grenoble, vous dites quoi, vous, quand il dit c'est l'oisiveté des émeutiers des jeunes? En gros, derrière, par exemple, Maître David Libeski, il dit, soyons pas hypocrites, derrière, il dit que c'est les Noirs et les Arabes des quartiers.
Oui, mais aujourd'hui, dans le passé, les quartiers sensibles, qui c'est qui a vu? C'est l'État qui a fait ça. Il met tous les d'origine. D'ailleurs, même si on a l'entend français, moi c'est français, que ça soit Noir et Arabe, il n'est pas français sous comme Giscard d'Estaing avait dit. Vous avez compris? Le temps, c'est-à-dire, c'est que
c'est intéressant ce qu'il dit, Amadou.
C'est-à-dire
que vous êtes français, mais voilà. Comme vous n'êtes pas français de souche, vous ne serez jamais français. Merci, merci Amadou. Non, mais attendez, parce que beaucoup pensent ça. Beaucoup pensent ça. Tenez, je vous laisse réagir. Merci, Amadou, pour cette remarque.
Il y a des gens qui se trouvent pas français aussi.
Amadou, il dit clairement une chose. Giscard d'Estaing nous l'avait dit à l'époque, effectivement. Il dit. D'ailleurs, Amadou est français, il dit « Je suis français moi-même ». Mais on a beau nous rappeler que vous êtes français, mais vous n'êtes pas français de souche. En gros, vous n'êtes pas français. Derrière, en gros, en filigrane, vous ne serez jamais français. Bon, vous répondez quoi?
Il ne faut jamais dire jamais. si je vais répondre en une phrase. Et c'est tout l'enjeu, parce qu'il y a une communautarisation, et c'est un peu ce qu'il voulait dire, justement,
de
l'État français, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, où là-bas, c'est très connu, c'est très admis, qu'il y ait des communautés au sens ethnique du terme. Et en principe, la vision française n'est d'avoir une seule et unique communauté nationale dans sa diversité. C'est pas forcément ce qui est appliqué au quotidien. Donc, la notion de, ça me rappelle le débat, vous savez, sur l'identité nationale qui est vu avec feu, jadis. Et clairement, ça doit être la mère de toutes les luttes que d'arriver à une communauté nationale qui ne fasse pas de distinction sur la base ethnique.
Eh ben justement, on gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles. C'est qui ça? C'est le chef de l'État. Qui parle de qui? Qui parle de Rachida Dati.
J'aimerais rebondir rapidement là-dessus.
Là, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance.
Vraiment d'une phrase, je pense que c'est important.
Un symbole, Emmanuel Macron, qui défend évidemment. On a le temps, il a quelques secondes, vite, avant que je lance.
Moi, tout le monde se trompe sur le sujet. La France fut effectivement un pays, on va dire, blanc, c'est vrai. Mais à partir du moment où on entre en fait dans le concept de nation, en tant que Français, on est tous Français. Maintenant, il faut un peu plus de temps pour les gens d'accepter en fait qu'il y ait des gens d'origine diverse et variée qui deviennent Français. Et c'est là où chacun doit s'employer à faire un effort personnel pour se sentir pleinement Français. Moi, mon grand-père, il a combattu la France coloniale et quand il a eu sa nationalité, l'été française, on a fait péter le champagne. Donc, il y a une cohérence aussi à avoir, à accepter les mœurs du pays, qu'elles soient historiques, qu'elles soient religieuses, etc., pour entrer dans cette communauté nationale.
Là, tu parles de gens qui sont nés en France. Là, tu parles de Français. Tu parles pas, en fait.
Je parle de Français. Il y a des gens qui sont nés en France qui ne se sentent pas Français. Ouais. Moi, à une époque, quand j'étais dans le quartier dans lequel j'ai grandi, il y avait une mouvance qui faisait qu'à un moment donné, on se sentait pas totalement Français. Et parfois, je discute encore avec des potes de mon quartier de l'époque qui me disent, franchement, j'ai encore du mal. Parce que il y a ce relan de la France coloniale qu'on n'arrive pas à rejeter. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut même être en capacité de pardonner à la France les erreurs qu'elle a commises sur le passé.
Attends,
pays, comment est-ce que tu fais? Regardez, je regardais l'affaire Mehdi Ben Barka, Kwame Nkrumah, etc. Je connais toutes les histoires coloniales par cœur. La France-Afrique, je connais par cœur. J'ai vécu dans un pays en guerre.
La difficulté, en fait, là, tu parles des premières générations qui sont arrivées en France. Mais là, le problème, en fait, ce sont des gens qui sont nés en France, qui sont d'origine maghrébine.
Oui, mais ils héritent des blessures du passé.
Attends, mais ils héritent de quoi? Ils sont nés en France, ils vont à l'école de la République, la plupart, ils réussissent ou ils échouent, peu importe. Mais c'est là où est le problème. On n'est pas du tout dans un débat colonial, etc. Là, ce débat colonial.
Moi, c'est pas ce que je dis.
Les premières personnes.
C'est pas ce que je dis. Mais parfois, il y a cette justification-là dans le fait que tu as des personnes qui disent, moi, je me sens pas 100% français.
Je suis d'accord avec toi, c'est faux du temps. Ça me pose un problème parce que c'est des Français. Mais ça prend du temps parce qu'on a dit à
même chose. Mais Maître David, pourquoi il faut du temps?
On fait une pause.
Pourquoi il faut du temps?
Et on se retrouve tout de suite après pour parler de Rachida Dati. Les
relents du passé colonial agitent encore.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Ah, le micro n'était pas ouvert, tout simplement. Ça montre bien qu'on était en direct. 19h40 avec Maître David Debeskid, avec Ménadou Chénir et enfin avec Rudy Kézi. Une chance, un symbole. On gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Rachida Dati est un symbole dans les quartiers populaires, Ménadou Chénir?
Alors, la réponse est oui, mais ça ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas y avoir une Rachida Dati pour 10, 100 ou 1 million d'échecs en tout genre. Ça ne devrait pas être un symbole. Ça l'est devenu par la force des choses, parce que issu d'une famille populaire, issue de l'immigration, une famille populaire avec beaucoup d'enfants, puis a fait ses études de droit, magistrale, femme politique, etc. En l'occurrence, elle incarne, je ne la qualifierais pas de symbole, mais d'une incarnation de la méritocratie républicaine, comme quoi, en venant d'une famille très populaire, avec une grande fratrie, on peut aussi s'en sortir et avoir un parcours brillant. Ça ne devrait pas être un symbole, ça en est un. Faisons en sorte que demain, on ait des Rachida Dati et que ce soit normal et que ça ne devienne pas...
Ce symbole peut provoquer l'effet miroir chez les jeunes des quartiers populaires en se disant elle est ministre, elle s'appelle Rachida Dati, je viens des quartiers populaires, donc ça fonctionne pour elle, ça peut fonctionner pour moi.
Je vais vous dire, qu'est-ce qui empêche un jeune des quartiers populaires? Oui, alors moi je vais vous parler peut-être un peu de mon cas, mais c'est le cas de pas mal de jeunes. On peut avoir aussi comme symbole ou comme modèle ce qu'on appelle des rôles modèles, des capitaines d'industrie, des entrepreneurs issus d'autres origines ethniques ou français, etc. Faut pas que Rachida Dati soit le rôle modèle
pour les quartiers populaires, vous comprenez, avec une gamme, une ligne Rachida Dati pour les quartiers populaires. Demain, vous pouvez avoir un capitaine d'industrie français qui est un rôle modèle pour un jeune issu de l'immigration grandissant dans les quartiers populaires. Voilà. Ça ne devrait pas être un sujet.
Qu'est-ce qui vous dérange, Rosy?
Alors, franchement, Rachida Dati, franchement, moi, je le dis pas parce que je suis droite, franchement, sur son parcours, c'est impeccable. Rappelons aussi qu'elle est magistrate, etc. Donc, franchement, maintenant, je trouve que c'est un symbole.
Oui.
C'est vrai. Et le symbole dans la voix d'Emmanuel Macron s'ajoute. Bien sûr, le symbole s'ajoute à la dimension cosmétique de ce gouvernement. C'est ça qui est dérangeant. Si on rapporte Rachida Dati par rapport à tout son pouvoir, tout son parcours, tout ce qu'elle représente, et qu'on le met dans quelque chose de cosmétique. Là, pour moi, ça me dérange parce que elle est pas dans la cosmétique. C'est palpable. Son parcours, c'est du concret. C'est ça qui me dérange. Et ce qui est dérangeant d'autant plus, c'est que mettre aussi Rachida Dati dans tous ces symboles qu'on agite un petit peu comme des porte-clés, au lieu en fait de révéler tous ses talents. Qui sont, vous parliez d'identification par rapport à la jeunesse des quartiers, moi c'est un de mes combats, de montrer dans le passé, dans le présent, tous ces gens qui sont issus de l'immigration et qui ont fait la grandeur de la France, que ce soit, on parlait des troupes coloniales qui sont pas que africaines, antillaises, pacifiques, ou bien des capitaines d'industrie, on en parlait, des Mohamed Al-Trad, des gens comme
pourquoi
ça.
Pourquoi Emmanuel Macron, voilà. Il défend le symbole de Dati.
Mais il défend le symbole parce qu'il est dans la cosmétique. Ça l'arrange de dire, regardez, on a inclus quelqu'un qui est issu de la diversité, qui est méritant, et regardez ce qu'on peut faire. Et en plus, le premier déplacement, pour moi, il est bourré de clichés. Ils vont à Clichy-la-Garenne, et on leur présente un spectacle de danse hip-hop. Non, pour moi, la danse hip-hop, j'ai grandi dans un quartier, moi-même j'en ai fait du hip-hop, donc c'est quelque chose avec lequel on a grandi, même s'il y a la variété française qui fait partie de mon environnement aussi. Mais pourquoi en fait ne pas faire quelque chose de plus subversiste, de connecter en fait ces espaces qui sont souvent liés, qui se rapprochent beaucoup du hip-hop, pour les emmener vers quelque chose de plus classique, et inversement, quoique ça se fait déjà dans les quartiers bobos de Paris, où on va plus sur de la culture urbaine, entre guillemets. Pour moi, c'est l'accès à la culture, c'est aller à l'opéra, là où beaucoup de jeunes se diraient, mais c'est nul l'opéra. Non, va découvrir, va écouter. Voilà. Et quelqu'un comme Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement, mais c'est ça qu'elle devrait incarner, plutôt que d'être un petit peu, pardonnez-moi l'expression, je trouve que Emmanuel Macron l'agite un petit peu comme la beurette de droite, quoi. Non, mais moi, franchement, ça me dérange. Ça, en fait. Vu le parcours de Rachida Dati, non, on doit vendre la chose de meilleure manière que ça. Regardez Mohamed Al-Trad, son parcours, capitaine d'industrie aujourd'hui, il y a plein de parcours comme ça. Et en son temps, Elisabeth Moreno, c'était exactement la même chose. Et c'est une amie, j'en parle de façon assez déçue par rapport à tout ça. Mais
Ménade, qu'est-ce que vous voulez dire avant de
arrêter la cosmétique?
Ça semble cosmétique, mais attention, on parle de Rachida Dati. Je pense pas qu'elle se serait laissée embarquer dans quelque chose où elle servirait d'accessoire à la politique
de la mairie de Paris.
Donc en l'occurrence, il y a quelque chose derrière. Et je vous dirais même, il y a du Nicolas Sarkozy derrière aussi, parce qu'on connaît la relation, en tout cas, notoriété publique qu'il s'entend plutôt bien avec le président de la République. Et Rachida Dati ne se serait pas, telle que je pense la connaître, en tout cas, puisque je la connais pas personnellement, mais c'est pas du genre à se laisser embarquer, à être un accessoire de mode pour le gouvernement Attal Macron. Bien au contraire, je pense qu'elle va nous étonner.
Il y a un compromis.
Alors, Maître David Lebesgue.
Alors, Emmanuel Macron instrumentalise Rachida Dati, mais bon, elle y trouve son compte, puisque a priori,
c'est une crise de guerre.
Elle aura l'investiture de Renaissance en 2026 pour les municipales. Après, c'est l'instrumentalisation. Elle est française, après. Faut arrêter de dire, regardez, c'est quelqu'un d'origine maghrébine, elle a super réussi, etc. L'issue d'une fratrie de 11 enfants, oui, effectivement, elle a réussi. Mais après, est-ce que elle a été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'elle s'est préoccupée des quartiers populaires? La réponse est non. Elle n'a rien fait. Au contraire,
elle
a durci les lois pénales. Est-ce que c'est non, mais c'était
sa mission.
Elle a fait partie d'un gouvernement de droite. En fin de compte,
les quartiers populaires,
elle est peut-être née dans un quartier populaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas une sensibilité très prononcée pour aider, en fin de compte, les quartiers populaires.
Une
femme
quand
très
elle va dans les quartiers, elle est bien reçue.
Très à droite.
Non, malgré qu'elle soit très à droite, elle est très bien reçue dans les quartiers.
Elle est peut-être populaire dans les quartiers populaires, mais moi, je regarde les actes. je regarde les actes, je regarde pas en fait l'origine ethnique, etc. Au niveau des actes, elle n'a rien fait.
Mais comment est-ce que vous voulez qu'elle agisse pour les quartiers populaires en tant que ministre de la Justice? C'est pas sa mission. Elle a opéré une grande réforme de l'État au niveau de la justice, les peines planchers, les rétentions de sûreté, etc. Elle a fait le travail.
Nicolas Sarkozy.
Ah oui, donc du coup, elle est responsable du fait que selon vous, elle a rien fait selon le plan quartier populaire.
Je suis pas d'accord.
Bah attendez, le plan Marshall pour les quartiers populaires.
Clochette, clochette, on s'entend plus, chers amis.
Le plan Marshall. Juste un mot. Nicolas Sarkozy, alors je parle du Sarkozy de 2007, avec un gouvernement avec des Jean-Louis Borloo, des Hervé Novelli, etc. Le statut d'auto-entrepreneur avec lequel beaucoup, alors peut-être ça va être précarité, etc.
La formation
c'était oui, du Nicolas Sarkozy.
La politique de proximité qu'il a supprimé.
Vous avez
aussi.
Donc Jean-Louis Borloo avec
doute, il y a pas mal de choses qu'il a fait.
L'Agence nationale de rénovation urbaine qui, pardon, a redonné un peu de dignité à beaucoup de nos quartiers du fait de leur rénovation. On peut pas mettre zéro pointé à Sarkozy. Et Rachida Dati qui avait mené, tant bien que mal, avec les conditions de l'époque, une réforme de la justice. Moi, je pense que l'une des réponses pour on va dire le regain en tranquillité, en sérénité, en habitabilité de nos quartiers populaires, elle est aussi du côté de la justice. Bien sûr, il y a la culture, bien sûr, il y a la sociale, bien sûr, il y a l'économie, mais il y a aussi la justice. Tout ça fonctionne en même temps. C'est un circuit, ça fonctionne en même temps.
David,
on ne peut pas réformer la justice.
David, est-ce que vous connaissez l'établissement pour l'insertion dans l'emploi?
Attends, laisse-moi.
Vous connaissez ou pas? C'est Sarkozy qui l'a
présenté en fait comme une figure politique des quartiers populaires, d'autres ministres, d'autres secrétaires d'État issus français.
Mais qui s'est présenté comme tel, elle? Jamais.
Je veux dire, elle est beaucoup plus représentative.
Non, mais elle s'est jamais présentée comme
ça. Rachida Dati se dit, j'ai un article dans le
d'ailleurs,
Monde.
D'ailleurs, elle est maire du 7e, qui n'est pas un quartier populaire.
Mais d'accord, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous lui reprochez de rien avoir fait dans les quartiers populaires?
Il y a un article qui dit justement, Rachida Dati saura manier à son profit le concept de culture pour tous. Ça, c'est dans le journal Le Monde. Mais saura-t-elle en faire profiter le monde? Alors, le mini-culturel, voilà, il se pose la question. Alors, est-ce que le concept de culture pour tous peut fonctionner avec Rachida Dati?
Je pense que oui, je pense qu'elle va nous étonner.
Y compris dans les quartiers populaires.
Et justement, la culture, effectivement, c'est un peu ce que disait Rudy tout à l'heure quand il parlait d'opéra, etc. Alors, sur le déplacement, je ne suis pas d'accord. Parce que s'ils étaient allés justement à l'opéra avec Emmanuel Macron, on aurait crié à l'élitisme, etc. Enfin, une certaine presse.
Mais là, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je disais simplement, c'est que ce serait bien que lorsqu'on va dans les quartiers, qu'on n'est pas que des spectacles de hip-hop,
voir une résidence d'artistes, parce que dans les quartiers effectivement il y a beaucoup plus que ça. Quand j'étais en fonction, on avait fait des partenariats avec la Philharmonie de Paris qui se passait formidablement bien et ça drainait des jeunes de, j'ai envie de dire, même tous les quartiers, même des quartiers plus aisés. Mais c'est pas tellement le sujet. Je pense que Rachida Dati a cette capacité. Elle a finalement un peu comme Éric Dupond-Moretti, issu d'un milieu très modeste, ils ont grimpé échelon par échelon. L'avantage quand on grimpe comme ça les échelons de l'échelle sociale, c'est qu'on garde quand même la mémoire et les codes des échelons dont on est issu. Ouais, et Rachida Dati, elle va être, je pense, en capacité de construire, si avec les moyens qui seront les siens et la durée, on va dire, de sa fonction, un programme, en tout cas une offre qui fera qu'on aura effectivement, j'espère en tout cas, non pas populariser la culture, mais mélanger, diversifier et abattre les cloisons et les cordons sanitaires entre les différents milieux culturels qu'on a aujourd'hui.
Vous en pensez quoi?
Mais il est vrai que déjà quand on parle de culture, selon son environnement social, son environnement social, quand on parle de culture, on parle pas exactement de la même chose. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il est très important de sortir en fait les quartiers du prétendu, du cliché de la culture qui est souvent en fait la culture urbaine. C'est pour ça qu'on dit souvent quand on est de quartier, le seul moyen de s'en sortir, c'est soit de faire du foot, soit de faire du rap, de R&B, enfin toutes les musiques qui sont dans le giron de la culture urbaine. Mais non, en fait, faut tracer des nouvelles lignes. Faut ouvrir en fait des champs des possibles. Vous avez par exemple un prodige à Marseille, un jeune homme qui a une oreille absolue
et
qui est dans le classique.
C'est ça que vous voulez dire ?
Mais bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils sortent de leur classique, ils aillent à l'opéra, par exemple, c'est ça ?
Mais bien sûr, les ouvrir au monde. Regardez, comment ça se fait que la culture française soit quelque chose qui soit aussi peu représentatif dans les quartiers où c'est plutôt la culture américaine qui a le vent en poupe qui domine. Elle est là pour moi la mission de Rachida Dati.
Elle a dominé déjà dans les années 80 la culture américaine.
Et ça continue. Le rap est la musique la plus écouter en France.
Mais en même temps,
c'est pas une mauvaise chose, mais il y a autre chose que le rap.
La culture urbaine dont tu parles, elle est très, très quasiment absente, à part peut-être dans le 18e à Paris. Donc en fin de compte, chaque ville ou chaque quartier en fait a sa propre culture, comme tu disais, tu as tout à fait raison. Mais après, la culture, ça dépend ce qu'on met dans la culture. Si ça faut amener de la culture dans les quartiers, ça je suis d'accord, de la variété, pas que de la culture hip-hop et de la culture urbaine. Mais après, est-ce que les jeunes des quartiers iront voir Molière, enfin, une pièce de théâtre de Molière, je ne sais pas quoi.
Je voudrais, avant de rendre l'antenne, parce qu'évidemment, il y a cette affaire, l'affaire Théo, vous savez, l'affaire Théo Liuanka, qui a beaucoup fait parler, hein, c'était le procès, et tant qu'ils sont condamnés, tout me convient. C'est la réaction du jeune Théo, réagit donc la victime. Jusqu'ici, rappelons-le quand même, un Théo qui s'est dit « je suis un mort-vivant ». Vous vous rendez compte, un jeune à qui on gâche, à qui on arrache sa jeunesse et qui fait cette déclaration.
Très triste.
Très triste, effectivement. Il dit, voilà, je suis un mort-vivant. Alors aujourd'hui, il dit, tant qu'ils sont condamnés, ça me convient. Que peut-on retenir de cette affaire Théo, alors que trois policiers ont été jugés donc, devant les assises de la Seine-Saint-Denis. Alors, Maître David Libeskind.
Alors, ils sont jugés devant les assises parce que, en fait, Théo a une infirmité qui est permanente, c'est-à-dire à vie, hein, d'accord. Donc franchement, je le trouve très très sage dans les propos qu'il dit. Après, moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est les réquisitions. En fait, le parquet a pris des réquisitions des peines de prison avec sursis. Alors qu'en fait, Théo, il a une infirmité à vie. Donc je trouve, en fin de compte, que le parquet fait preuve beaucoup de clémence. Je pense que au moins, en tout cas, pour l'agresseur, le policier agresseur... au moins, il aurait fallu quand même une peine de prison ferme.
C'est alors pas avec que le plaidoyer de l'avocat général était dur. Et au final, les réquisitions.
Il aurait dû prendre du ferme.
Non, mais le résultat, c'est.
Les réquisitions sont légères.
Il aurait dû prendre du ferme pour.
Non, mais voilà, les réquisitions sont légères. On peut avoir des propos durs, mais en tout cas, ce qui est important en fin de compte, c'est, comme tu dis, c'est la peine. En fait, il propose des peines avec sursis. Alors qu'en fin de compte, Théo, le pauvre Théo, en fait, il infirme à vie. Donc à partir de là, je pense qu'en fin de compte, que les réquisitions, en tout cas, en ce qui concerne le policier qui principalement a agressé Théo, je pense qu'en fait, il aura dû requérir une peine de prison ferme pour l'exemple.
Ménède, ou Chénier, quelques secondes.
Oui, la réaction du jeune homme me paraît aussi plutôt équilibrée, puisque après, il y a l'autorité de la chose jugée. Donc là, maintenant, ils sont déclarés coupables et ils sont condamnés comme
non,
ça.
C'est demain.
J'ai vu requis 3, 12 mois.
Non, là, c'était
requis.
Ils sont pas encore condamnés. En l'occurrence, ils sont. Voilà, la réaction de Théo me paraît tout à fait sage. Et attendons de voir quelles seront les...
La noblesse de Théo qui a salué. Les réquisitions, je trouve qu'ils sont effectivement légères, parce que lorsque on considère non seulement l'acte qui a causé l'infirmité de Théo, on est clairement sur de la violence illégitime de la police.
Vous allez être coupé. Hein.
Et donc, je trouve que c'est un peu léger.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai, effectivement.
Mais au regard de ce qui s'est passé, tous les policiers ne sont pas des agresseurs non plus.
Merci Maître David Debisky dans les informés des quartiers. Merci à Foudil à la réalisation. Bilal, merci à tous vous tous au 015348 dans les informés des quartiers. Je vous souhaite un excellent week-end. Bilal Nelman pour Thème Sport. Vanessa, 21h-23h, très bon programme à écouter tout ce week-end. À lundi avec autant de plaisir, mais surtout,
on lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.